Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons maintenant le commentaire du chapitre 24 de Saint Matthieu, que vous trouvez donc sur le polycopier qui contient les chapitres 21 à 25 à la page 25. Commençons par les deux premiers versets. Jésus étant sorti du temple, s'en allait. Alors ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il est évident que ce temple de Jérusalem, qui était la plus belle construction jamais construite par l'homme à l'époque, ce temple est le symbole d'un autre temple, encore plus beau en principe, encore plus glorieux. Ce temple de Jérusalem représente plusieurs choses. Il représente d'abord l'âme. Et quand une âme est en état de grâce, elle doit être encore plus belle que le temple de Jérusalem. Et ce temple de Jérusalem représente aussi le temple de la gloire divine, c'est-à-dire le ciel, qui est encore évidemment infiniment plus beau. Et donc, de même que la profanation du temple par l'empereur Titus, qui a détruit donc ce temple complètement en an 71, étant utilisé comme un instrument de Dieu pour châtier le crime du déicide du peuple juif, et bien de même que cette destruction du temple a été une catastrophe pour tout le peuple hébreu, la destruction de notre propre temple par le péché mortel est quelque chose de catastrophique. Quant au temple divin, le temple de la gloire de Dieu au paradis, celui-là est intouchable. L'homme et le démon n'ont aucun pouvoir contre lui. Et donc, en méditant un peu sur ces textes, on comprend la grandeur d'une âme en état de grâce. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour les âmes, à cause du prix des âmes. Et il faut justement méditer sur la gravité du péché. Le péché est l'unique vrai mal. Tous les autres maux sont des maux non pas secondaires, mais relatifs. Par contre, la mort d'une âme, la destruction d'une âme par le péché mortel, est ce qu'il y a de plus grave. Voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet. Donc, c'est le commentaire du premier chapitre, du premier paragraphe de la page 25. « Chaque catholique étant le temple de Dieu par l'habitation en lui de l'Esprit de Dieu, et lui-même cause du départ du Christ de son âme par le péché. » Donc, c'est ça le drame, c'est que Dieu habite dans son temple, vient dans le temple de notre âme le jour de notre baptême. Alors, il va y rester pendant un certain nombre d'années, jusqu'au premier péché mortel de l'enfant. On dit que l'ange gardien de l'enfant pleure à chaudes larmes le jour du premier péché mortel de son protégé. Alors certes, lorsque le péché mortel rentre dans le temple, notre Seigneur Jésus-Christ immédiatement s'en va. Il ne peut pas rester dans un temple souillé par le péché mortel. Mais il va y revenir dès que l'affront est lavé, dès que l'affront est enlevé. On peut enlever l'affront du péché par un acte de contrition parfaite, regrettant son péché par pur amour du bon Dieu. On peut aussi enlever cet affront par une bonne confession. Donc ce que disent ici les pères, la constitution, la nature du chrétien est un magnifique, devenu le temple de Dieu. Les disciples et les saints intercèdent devant la face du Christ pour qu'il n'abandonne pas la race humaine à cause de ses péchés. Donc le bon Dieu nous a confié ce temple. Ce temple ne nous appartient pas, le temple de notre âme ne nous appartient pas, mais nous en sommes les représentants, quelque sorte. Nous sommes les stewards, c'est-à-dire nous sommes les personnes qui sont en charge du temple. Nous sommes les managers, pour utiliser un terme très moderne, de ce temple. Mais le temple ne nous appartient pas. Donc malheur à celui qui ne s'occupe pas de ce temple. C'est ça le drame, c'est que nous avons un temple merveilleux en nous, pour ceux qui sont baptisés au moins. Eh bien, ce temple, nous en avons la charge, et la plupart des gens s'en occupent même pas. Ils laissent les... C'est une comparaison qu'on peut prendre. Imaginez un jardin magnifique, un jardin à la française splendide, et puis les jardiniers s'en occupent plus. Alors les mauvaises herbes arrivent, poussent partout, et vont détruire la beauté de ce jardin. C'est la même chose pour notre âme. Et les pères vont plus loin. Voilà ce qu'ils disent. Quand le Christ quitta le temple, tous les édifices de la loi et la structure des commandements furent renversés. Car la tête étant enlevée, toutes les parties du corps étaient en guerre entre elles. Lorsque les passions ne sont plus sous contrôle de la volonté, lorsque la volonté n'est plus sous contrôle de l'intelligence et l'intelligence sous le contrôle de la grâce divine, eh bien, c'est la révolution qui rentre dans la maison. La révolution, le mot dit bien ce que ça veut dire. La révolution, c'est le retournement complet de cette âme. D'ami de Dieu, on devient ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous les magnifiques comparaisons utilisées par le Saint Curé d'Ars dans ses catéchismes, qui compare une âme en état de grâce à un magnifique diamant qui brille de tous ses feux sous le soleil, sous la lumière du soleil. Et il compare au contraire une âme en état de péché mortel, donc le temple souillé par le péché, à un cadavre d'un chien laissé sur la place du village, mort pendant une quinzaine de jours, dans plein soleil du mois d'août. On s'en approche, on ne peut même pas s'approcher, parce que tellement ça sent mauvais, la corruption est là, la pourriture est là, les vers sont partout, les mouches sont partout. Voilà à quoi ressemble une âme en état de péché mortel. Donc faisons, en méditant sur ces versets, faisons un examen de conscience. Dans quel état est mon temple? Le temple dont j'ai la charge. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, qu'en est-il de ceux qui ne sont pas baptisés? Ils ont quand même un temple, ceux qui ne sont pas baptisés. Ils ont tous une âme. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le comprendre et de le posséder. Dit Saint Pie. Donc tous les hommes, même les non baptisés, ont une âme, attention. Puisque l'âme fait partie de notre nature humaine. C'est la grâce qui est surnaturelle, pas l'âme. L'âme est naturelle pour l'homme. Mais ceux qui ne sont pas baptisés, eh bien évidemment, un temple qui n'a pas cette beauté spéciale qu'apporte la grâce du bon Dieu. Rappelez-vous cette remarque dont j'ai souvent parlé, parce qu'elle me semble très importante. Remarque que Mgr Lefebvre avait faite avec un séminariste qui avait été un peu imprudent dans ses paroles devant lui. Le séminariste avait dit, il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Et Mgr avait réagi fermement en disant non, parce qu'il y a une beauté d'âme dans le catholique, même en état de péché mortel, qu'il n'y a pas dans l'âme du protestant. Parce que le protestant n'est pas baptisé, alors que le catholique reste baptisé. Et si le péché mortel fait sortir le bon Dieu de l'âme, le caractère baptismal demeure. Et ça donne une gloire extraordinaire à l'âme, mais en même temps des devoirs à cette âme. Parce que nous sommes baptisés, nous avons beaucoup plus d'aide pour rester en état de grâce, mais nous avons aussi beaucoup plus d'obligations, malheur aux baptisés, et qui ne remplit pas ses obligations. C'est-à-dire que Dieu, dans son jugement, sera beaucoup plus sévère avec une âme qui a été baptisée qu'avec une âme qui n'a pas été baptisée. Mais dans le texte d'Origène, chaque homme qui accepte en lui la parole de Dieu devient un temple. Après le péché, il garde au moins en partie les traces de la foi et de la religion, son temple étant en partie détruit, en partie encore debout. Mais si le péché n'a aucun regret pour son péché, il s'aliène Dieu de plus en plus, abandonnant le Dieu vivant, et pas une pierre ne restera des commandements qui ont été renversés. Comme un bâtiment splendide, si on ne l'entretient pas, il finit par s'écrouler, la pierre finit par pourrir, L'humidité passe entre les pierres, le vent, le sable, les éléments extérieurs vont agir sur cette pierre. On voit très bien, prenez une belle église du XIe siècle, du XIIe siècle, qui est une splendeur d'architecture médiévale. Mais si personne ne s'en est occupé pendant des siècles, eh bien, cette structure finit par se détruire. On a vu partout ces magnifiques ruines d'édifices qui ont dû être somptueux au Moyen-Âge et qui maintenant sont des ruines envahies par le lierre, envahies par les ronces, parce que justement l'homme ne s'en est pas occupé. Bien sûr, on voit à quoi doit ressembler une âme dont on ne s'occupe pas. Et j'ai trouvé dans un commentaire des Pères cette note sur le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était un délice pour l'esprit et les yeux. Le toit était entièrement couvert d'épaisses plaques d'or. Au petit matin, il brillait de tous ses feux pour les yeux du visiteur, brillant comme le soleil lui-même. Mais le Christ annonça que tout serait renversé, comme le fut la magnificence de Babylone, de Ninive, d'Antioche et de Rome. À cause de la perversité de leurs habitants, et pour bien faire comprendre que toute cette splendeur humaine n'était que transitoire, de peu de valeur, et qu'il fallait donc pousser les âmes à regarder la magnificence du ciel, qui est bien plus grande et éternelle. Gardons les yeux fixés vers le ciel, puisque c'est là où on est appelé. Les historiens disent que lorsque Titus, l'empereur Titus, qui a organisé le siège de Jérusalem en 71, a vu la magnificence du temple de Jérusalem, il a donné des ordres à ses soldats pour que le temple soit préservé. Mais malheureusement, un soldat, l'armée romaine est entrée dans la ville de Jérusalem après des mois de siège, eh bien, un soldat qui avait une torche à la main a envoyé une torche à l'intérieur du temple, une torche enflammée, et le feu a pris au temple. Et les Romains n'ont pas pu éteindre le feu, et le feu a détruit complètement l'édifice. Et après la destruction de Jérusalem, disent les Pères, seules les tours restèrent pour être un témoignage à la postérité des fortifications de la ville et de la vaillance des Romains qui l'avaient capturée. Mais les autres fortifications furent totalement détruites jusqu'au sol, au point que ceux qui passaient par là avaient du mal à croire qu'il y avait en ce lieu une ville habitée. Et cette destruction du temple de Jérusalem, qui est historiquement très bien documentée, cette destruction du temple de Jérusalem, la ville de Jérusalem, par l'empereur Titus, et le symbole, encore une fois, de la destruction de notre âme. Et les Juifs n'ont eu de cesse d'essayer de reconstruire le temple de Jérusalem. Ils n'ont jamais pu. Et actuellement, il y a encore des tas d'organisations qui cherchent à faire reconstruire le temple de Jérusalem pour faire mentir les prophéties. Et il y a eu plusieurs essais de reconstruction du temple de Jérusalem, mais ils n'ont jamais pu le faire parce que à cause des tremblements de terre qui apparaissaient immédiatement, des globes de feu qui sortaient des travaux pour reconstruire le temple de Jérusalem, qui ont dû arrêter les travaux tout de suite. Tant de choses un peu extraordinaires qui se sont passées. Je voudrais vous redonner, puisque ici le texte sacré parle de cette destruction du temple de Jérusalem, je voudrais vous redonner le texte de Joseph, donc un historien juif, qui a parlé, qui a donné des détails sur cette destruction du temple de Jérusalem et de la ville de Jérusalem à la fin du siège. Donc ce siège a duré fort longtemps, du 14 avril au 1er juillet 1971. Donc 2 mois et demi. Et voilà ce que dit Joseph. 200 000 juifs moururent de faim pendant le siège de Jérusalem. 116 000 cadavres sortirent par une seule porte de la cité. 1 100 000 hommes furent tués dans la ville et 240 000 dans le reste de la Judée. Une forêt de croix s'élevait dans la campagne et le long des chemins où d'innombrables victimes expiaient le crime du calvaire. On ne saurait évaluer le nombre des esclaves qui furent emmenés à Rome ou vendus aux peuples étrangers. Jésus avait estimé 30 deniers, on donnait 30 juifs pour un denier. Donc, cette destruction du temple de Jérusalem n'est pas simplement, c'est le témoignage des pères de l'Église, hein, n'est pas simplement une punition pour le déicide, bien sûr, du peuple juif, mais c'est aussi un autre symbole qu'il faut bien comprendre, c'est le symbole de la fin de l'Ancien Testament. De même que le rideau du temple a été déchiré en deux au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le Vendredi Saint, de la même façon, ce temple de Jérusalem qui est détruit symbolise justement l'arrivée d'un nouveau temple. Et ce nouveau temple, c'est le temple de l'Église catholique. qui va prendre la place de l'Église juive avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons avec les versets 3 à 5 de ce chapitre 24. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent « Dites-nous quand ces choses arriveront et de quel signe il y aura de votre avènement à la consommation du siècle ?» Et Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom, disant « Je suis le Christ » et en séduiront beaucoup. » Les faux prophètes. Le monde d'aujourd'hui est rempli de faux prophètes. Et nous avons des communications de faux prophètes à longueur de journée. Les faux prophètes, c'est pas ça qui manque, hein. Quand connectez-vous à Internet pendant 15 secondes, vous allez voir les faux prophètes, ils sont tous là. Lisez vos journaux, les journaux modernes, écoutez les chaînes de télévision, voyez les chaînes de télévision, écoutez les chaînes de radio, vous verrez les faux prophètes sont partout là. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus justement sur ces faux prophètes qui par séduction annonceraient faussement le Christ. Donc, ne croyons pas à tous ces faux prophètes. Hein, l'Église catholique, les catholiques plus exactement, étaient en partie perturbés aussi par toutes ces fausses apparitions qui remplissent le monde aujourd'hui. Attention à l'apparitionnisme, mes bien chers frères. Que nous aimions la Sainte Vierge, très bien. Que nous aimions la Sainte Église catholique, très bien, c'est nécessaire. Que nous suivions les apparitions reconnues par l'Église, très bien, et Dieu sait s'il y en a. Et en France, nous avons été bénis de multiples apparitions. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la rue du Bac à Paris, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du Lourd. C'est pas ça qui manque, Notre-Dame de Pontmain. Les grandes apparitions sont partout, puis toute une série de petites apparitions locales, régionales, qui ont été reconnues par l'Église. Alors ça, nous pouvons bien sûr nous appuyer sur ces apparitions pour augmenter notre foi. Mais attention à toutes ces apparitions modernes dont la plupart sont fausses. Je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses, mais ne comptez pas sur l'Église de Vatican II pour faire une investigation correcte, prudente et raisonnable des apparitions actuelles. Il y a toutes ces fausses apparitions, je pense en particulier à l'apparition de Maître Gorgi en Yougoslavie, qui fait des dégâts énormes et qui vient d'être connu aujourd'hui par l'Église de Vatican II, précisément parce que l'Église de Vatican II se reconnaît parfaitement dans les messages de Maître Gorgi. C'est une sanctification, en quelque sorte, de l'esprit de Vatican II, de liberté, d'égalité, de fraternité, la liberté de conscience, d'écuménisme et la collégialité. Donc attention à ces fausses apparitions. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus, prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom, prétendant être des représentants de notre Seigneur et qui ne le sont pas. Page 26, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous troubler, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on verra se soulever peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura des pestes et des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc on verra, nous dit notre Seigneur, la révolte dans l'esprit des hommes, l'affliction dans les corps, la stérilité des sols et la colère du ciel. La révolte dans l'esprit des hommes, on verra se soulever peuple contre peuple. Notre Seigneur annonce donc ces révolutions qui vont détruire les peuples. L'affliction des corps est aussi annoncée par les pestes, les maladies, la stérilité des sols par les famines et la colère du ciel par les tremblements de terre en divers lieux. Vous savez que les tremblements de terre ont marqué le moment précis de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il y a eu beaucoup de tombeaux qui se sont ouverts à ce moment-là à cause de ces tremblements de terre, et même il y a eu beaucoup de résurrections de personnes qui étaient enterrées depuis un certain temps, qui ont ressuscité au moment du calvaire pour bien montrer que la terre participait en quelque sorte aux souffrances de la Passion. On voit encore dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem un rocher fondu, à une grande profondeur, contre toutes les lois ordinaires de la nature. La fracture s'est produite dans un sens opposé à celui des couches de la roche. Elle mesure plusieurs mètres en longueur et en profondeur. Si l'on veut voir qu'un dieu soit mort en cet endroit, qu'on regarde seulement les rochers déchirés du calvaire, dit saint Cyrille de Jérusalem. Donc, tous ces signes annoncés par Dieu préparent justement les catholiques à savoir que un jour, cette terre d'ici-bas disparaîtra. La terre n'est pas faite pour durer éternellement. Il y aura une consommation par le feu à la fin des temps et cette terre disparaîtra en tant que telle. Les puissances du ciel seront détruites au moment du jugement général par Dieu. Alors voyons le sens que donnent certains pères à ces paroles de notre Seigneur. Le royaume contre le royaume, les pestes qui se répandent comme une épidémie, la soif d'entendre la parole de Dieu, la commotion par toute la terre, la séparation de la vraie foi, toutes ces choses doivent être comprises comme un symbole des hérétiques qui se battent entre eux et finalement verront la victoire de l'Église. Le Christ déclare qu'il y aura une double guerre, une par les séducteurs, l'autre par les ennemis de l'Église. En fait, ce sont souvent les mêmes. Et juste avant la destruction de Jérusalem, une succession d'événements effrayants se déroulèrent. Ça, c'est les historiens qui disent cela, que dans les mois et les années qui ont précédé, surtout dans les mois qui ont précédé la prise de Jérusalem par Titus, la destruction de Jérusalem par Titus, il y a toute une série de signes dans les cieux qui, et ici-bas sur la terre qui ont marqué justement les esprits. Ces signes permettent d'expliquer certaines choses. Il ne faut pas se moquer des signes. Voyez, souvent, on voit certaines catastrophes et on veut pas voir les causes de ces catastrophes. Je donne un exemple tout simple qui me vient à l'esprit actuellement. Prenez la destruction en Martinique, d'une ville de Martinique par le volcan de Martinique a explosé, montagne Pelée. Je crois en 1901 ou 1902, au début du XXe siècle, et il y a eu je ne sais plus combien, une dizaine de milliers de morts. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui s'en est tirée. C'est un prisonnier qui était en prison et qui a été protégé par les murs de sa prison. Mais sinon, la nuée ardente qui est sortie de la montagne Pelée a détruit toute la ville. Je crois que c'est la ville de Saint-Pierre, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, ce que les gens ne disent pas, c'est que quelques jours auparavant, il y avait eu une procession sacrilège qui avait été faite dans la ville où ils avaient promené un cochon crucifié sur une croix pour se moquer de notre Seigneur. Et ensuite, ils avaient jeté cette croix dans une des fissures du volcan. Le volcan s'est vengé. Vous voyez ? D'autres exemples, à peu près à la même époque, c'est un petit peu après, je crois que c'était en 1912, lorsque le Titanic a sombré lors de son premier voyage, pour relier l'Europe à l'Amérique, par ce bateau somptueux qui était le fruit de l'orgueil du monde moderne. Lorsque le bateau avait été peint, avant la peinture, certains ouvriers avaient marqué et inscrit à la peinture des blasphèmes épouvantables sur la coque, avant de recouvrir d'une deuxième couche pour les cacher. Entre autres, il y avait le blasphème suivant que ce bateau était tellement puissant que Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Eh bien, Dieu a bien dû se moquer d'eux, tiens. Et à son premier voyage, eh bien, un iceberg a détruit le bateau. Il y a eu je ne sais pas combien de milliers de morts, autour de 2000 morts. On ne se moque pas de Dieu. Voilà ces signes tels qu'ils sont relatés par les pères de l'Église. C'est eux qui en parlent. En suivant les historiens de leur époque d'ailleurs. Une terrible comète en forme d'épée se tint au-dessus de la ville toute l'année précédant sa destruction. Et pour la Pâque, alors que les habitants se réunissaient 3 heures après minuit, une lumière aussi claire que celle de midi brilla pendant une demi-heure dans le temple. Un bœuf, deuxième signe, un bœuf qu'on allait offrir en sacrifice donna un agneau. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé ça que c'est un père de l'Église. La porte orientale du temple, faite de bronze, est si lourde qu'il fallait une vingtaine d'hommes pour la fermer, s'ouvrit toute seule à minuit. Et on vit dans les nuées des armées, des chariots et des batailles, et pour la Pentecôte, on entendit des voix d'anges disant « Dans le temple, partons d'ici. » Suite des prophéties. par des inconnus, un homme ignorant de basses conditions. Et Jésus, le fils d'Ananus, commença de crier partout. Une voix de l'Est, une voix de l'Ouest, une voix des quatre vents, une voix contre Jérusalem et le Temple, une voix contre les époux et les épouses, une voix contre le peuple tout entier. Et il continua ainsi de jour et de nuit sans cesse, marchant dans les rues de la ville pendant 7 ans, criant d'une voix menaçante « Malheur, malheur à Jérusalem, au Temple, aux habitants et à moi-même, jusqu'à ce que la ville soit assiégée par Titus et fut tuée au cours du siège. » Fait penser un peu au prophète Jonas, à Ninive, qui annonce la destruction de Ninive si les gens ne se convertissent pas. Et les gens se convertissent avec la grâce du bon Dieu, au moins en partie. Vous voyez, tout ceci doit sérieusement nous faire réfléchir pour nous faire comprendre l'importance de garder avec le plus grand soin le temple de notre âme, puisque notre âme est le temple du Saint-Esprit. Malheur à celui qui profane son temple par le péché grave. Versets 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup seront scandalisés, et ils se trahiront, et se haïront les uns les autres, et de nombreux faux prophètes surgiront, et séduiront beaucoup de monde. Et parce que l'iniquité abondera, la charité d'un grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc deux avertissements ici très importants que nous donne notre Seigneur, qui prennent toute leur valeur aujourd'hui, tout leur sens. D'abord, il nous prévient qu'un jour, l'iniquité abondera, la charité d'un grand nombre se refroidira. On voit très bien, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, beaucoup de gens apostaseront, beaucoup de gens, justement, perdront la foi, la charité d'un grand nombre se refroidira, si la plupart des gens commençaient à vivre dans le péché mortel. Mais en même temps, un acte d'espérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rappelez-vous la prophétie de Notre-Dame à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc, il faut se préparer, mes bien chers frères, savoir que nous sommes dans ces temps. Est-ce que nous sommes au temps de la fin du monde? J'en sais strictement rien. Donc, il ne faut pas dire des bêtises là-dessus. Parfois, les gens disent, mais on est au dernier temps de l'Église. Strictement parlant, on n'en sait rien du tout. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Ça peut durer encore des siècles. Ah, mais ça ne va pas durer encore très longtemps. J'en sais strictement rien. Il n'y a que le bon Dieu qui sait ça. Les apôtres ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ quand serait la fin du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ a refusé de répondre, alors faisant comprendre, bien comprendre que Dieu le Père seul savait. Et donc, il ne voulait pas qu'il sache. Ce qui est sûr, c'est ce que nous dit notre Seigneur, c'est que la fin du monde n'arrivera pas avant que l'Évangile ait été prêché de par le monde entier. Bon. Alors, vous allez me dire, mais l'Évangile a été prêché par le monde entier. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tous les signes de la fin du monde sont là? Sans doute pas. Un des signes, d'après les pères de l'Église, c'est la conversion d'une partie du peuple juif. Attention, il n'est pas dit que tout le peuple juif se convertira à la fin des temps. Non, une partie du peuple juif, un petit reste se convertira. Tant mieux pour eux, pour ceux qui se convertiront. Sur ce sujet, je conseille beaucoup à ceux qui ont un petit peu de temps et aux autres de trouver le temps de lire l'excellent ouvrage de l'abbé Rioux. Il vient publier un excellent livre qui s'appelle « De la question juive », qui est un livre de citations en fait, citations extrêmement intéressantes, un livre qui est inattaquable parce que les citations sont des citations par des autorités juives, à commencer par les saintes écritures des juifs. Par le Talmud, dans le Talmud surtout, il est allé chercher toute une série de citations qui font dresser les cheveux sur la tête. Et il parle justement de tout ça. Donc je vous conseille beaucoup ce livre, qui est très équilibré, qui est excellent. Page 27. Moralement, celui qui veut voir la glorieuse deuxième venue de la parole de Dieu dans son âme doit d'abord supporter en proportion les assauts des influences opposées. Le Christ, en lui devra d'abord être haï par tous, pas seulement par les nations au sens littéral du terme, mais par les nations des vices spirituelles. N'oublions pas, mes chers frères, je le dis souvent, que la vie spirituelle est un combat. Le combat spirituel, rappelez-vous le livre de Ernest Cupoli, le combat spirituel que je conseille beaucoup. Donc il y aura ce combat terrible entre les deux races. La race des enfants de notre Sainte Vierge Marie, la race des enfants du démon. Ça a été prédit. Prédit par dans le proto-évangile, dans le livre de la Genèse, je mettrai une inimitié entre tes enfants et, parlant démon, donc les enfants du démon et les enfants de la Vierge. Tu chercheras la mort au talon et elle t'écrasera la tête. Donc Saint Jean Chrysostome dit qu'il y aura une triple guerre contre les ennemis, les séducteurs et les faux frères. Alors quand aura lieu cette guerre, on ne sait pas, elle a déjà commencé. Mais ne vous lancez pas dans, ce serait une grave erreur, dans une recherche des prophéties soi-disant pour trouver la date de la fin du monde. On n'en sait strictement rien. Tous ceux qui ont annoncé une date de fin du monde se sont trompés. Il y a des sectes américaines, entre autres, qui annoncent régulièrement la date de la fin du monde, notamment les témoins de Jéhovah. À chaque fois, ils se sont trompés, parce qu'on ne connaît pas la date de la fin du monde. Et est-ce que ce serait bon pour nous de savoir exactement la date de notre mort à l'avance, la date de la fin du monde en avance? Je pense que ce serait une grave tentation. Si nous savions, si nous connaissions la date de notre fin de vie, de notre vie, notre passage devant le bon Dieu pour le jugement, mais on serait tenté peut-être d'attendre le dernier moment pour nous confesser, changer de vie, en connaissant la date de notre mort. Le bon Dieu nous a prévenu qu'il viendrait comme un voleur. Et donc, ne pas trop se préoccuper de cette date de fin du monde, mais vivons comme si la fin du monde allait arriver dans une demi-heure. Pratiquons notre devoir d'État. Dieu fera connaître à toutes les nations, dit Saint Jean Chrysostome, son amoureuse providence, dont il n'a exclu aucune nation, aussi barbare et impie qu'elle puisse être, pour qu'elle connaisse la foi dans le Christ, la grâce et le salut, mais il les a toutes aimées, a pris soin de toutes, les a appelées au temps propice, n'omettant rien de ce qui était nécessaire pour le salut de ces nations. Mais au jour du jugement, il condamnera ces nations qui ont refusé de croire en lui et de lui obéir. Les nations seront jugées. Les nations ne vont pas au ciel ou en enfer. Les nations seront jugées. Une nation qui a beaucoup reçu sera jugée beaucoup plus sévèrement qu'une nation qui n'a rien reçu du tout. Regardez la France. Regardez ce qu'on a reçu. Quand j'étais un pays étranger, je me rappelle quand j'étais en Australie, quand j'ai vécu plusieurs années en tant que prêtre, beaucoup de nos fidèles posaient la question en disant « Mais monsieur l'abbé, pourquoi est-ce qu'on n'a aucune apparition reconnue par l'Église en Australie? Pourquoi toutes les apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints, des apparitions de notre Sainte Vierge Marie, pourquoi est-ce qu'elles sont toutes en Europe, ou presque toutes en Europe? Vous, en France, vous avez des dizaines et des dizaines d'apparitions. Pourquoi on n'en a pas en Australie? Et pourquoi, me demandait-il, pourquoi la France a-t-elle reçu la foi catholique dès le début? Avec l'arrivée dans le sud de la France, dès le milieu du... avant même le milieu du 1er siècle, l'arrivée de Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Marie-la-Mère, de Saint-Lazare, de Sainte-Marthe, avec l'envoi d'un disciple de Saint Paul, Saint Denis, pour venir évangéliser la région de Paris, avec tous ces grands saints qui ont été envoyés par, entre autres, par Saint Pierre, pour venir évangéliser, catéchiser la France. C'est un Sainte Véronique, par exemple, l'épouse de Zachée, envoyée par Saint Pierre justement pour venir évangéliser l'Aquitaine. Saint Martial et tous ces grands patriarches d'une grande sainteté qui ont fait la France chrétienne. Et quand mes amis australiens me posaient cette question, je ne sais pas quoi répondre. Disant, parce que le bon Dieu a aimé d'une façon toute particulière la France. Mais comme la France a beaucoup plus reçu, il est évident qu'au jour du jugement, la France sera beaucoup plus châtiée que les autres nations. On le voit très bien aujourd'hui. La France est beaucoup plus châtiée par la Révolution qu'un pays comme l'Australie. Parce que l'Australie n'a pas reçu grand-chose. La civilisation est arrivée en Australie très tard. Versets 15 à 22. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour reprendre sa tunique. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou au jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'avaient été abrégés, nul chair n'aurait été sauvé à cause des élus. Ces jours seront abrégés. Alors les Perses se sont posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation, verset 15. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pères sont pas d'accord entre eux. Certains pensent que cette abomination de la désolation, c'est d'abord l'armée romaine qui va détruire la cité de Jérusalem et entrer dans la ville. D'autres voient une allusion au fait qu'il y avait une statue de César que Pilate avait installée dans le temple, même une statue équestre de l'empereur Hadrien qui se tenait dans le saint des saints. Donc, c'était une abomination. Donc, cette idole avait été installée dans le temple, devenue désert et en grande décadence. Donc, l'Antéchrist lui-même cherche à être adoré dans le temple. La profanation du temple par les assassinats et les autres crimes perpétrés par les zélotes de la loi et de la liberté, juifs séditieux et pleins de malice. Bon, mais l'abomination de la désolation, c'est notre symbole. L'abomination de la désolation, c'est le péché grave dans notre âme. Notre âme est le temple de Dieu, attention. Et lorsque j'introduis dans mon âme le péché mortel, j'introduis dans mon âme l'abomination, la désolation. Il faut réfléchir à ça. On voit dans l'histoire, on a étudié les historiens du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'avant la destruction de Jérusalem, Dieu a voulu sauver les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Il y a beaucoup de chrétiens à Jérusalem, mais ils ont été sauvés miraculeusement. Parce que juste avant la destruction de la ville, donc en 71 par l'empereur Titus, alors que les armées romaines approchaient, tous les chrétiens de la province avaient été miraculeusement avertis par le ciel. Ils s'enfuirent, passèrent le Jourdain et se réfugièrent dans la ville de Pella pour éviter le désastre provoqué par le refus de la croix. Ils prirent soin d'emporter avec eux d'ailleurs la chaire épiscopale de Saint Jacques, le premier évêque de Jérusalem, Saint Jacques apôtre. Et notre Seigneur dit bien que si ces jours n'avaient pas été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée, mais la chair des chrétiens était sauvée à ce moment-là. Alors, les pères de l'Église ont essayé de voir un petit peu ce que signifiait cette comparaison de notre Seigneur, que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour en emporter quelque chose, que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour reprendre sa tunique. Voilà ce qu'ils disent. Le toit en bas de la page 27. Le toit est la partie la plus élevée de la maison, le sommet de la perfection du bâtiment tout entier. Donc celui qui se tient au sommet de la maison, de sa maison, c'est-à-dire dans la perfection de son cœur, au sommet de la régénération du nouvel esprit, ne doit pas redescendre vers les désirs inférieurs des choses de ce monde. L'âme représente le ciel et le corps représente la terre. Donc c'est l'âme qui doit diriger le corps et pas l'inverse. Si c'est le corps qui dirige l'âme, mon âme sera engluée dans les choses terrestres. Si au contraire l'âme dirige le corps, à ce moment-là, mon âme sera libérée et sera envahie par le bon Dieu. Donc si je me tiens au sommet de ma maison, c'est-à-dire si je suis en état de grâce, dans la perfection de mon cœur, au sommet de la régénération du nouvel esprit, donc je ne dois pas redescendre vers les désirs inférieurs des choses de ce monde, ne pas quitter le ciel pour redescendre sur la terre. Sinon, je vais faire exactement ce qu'a fait l'homme du bon samaritain, de l'histoire du bon samaritain que vous connaissez bien. Cet homme qui descendit de Jérusalem à Jéricho, qui tomba au milieu des brigands qui vont lui dévorer, qui vont voler tout ce qu'il a, le laisser sur le bord de la route à moitié mort. Ça, c'est notre histoire, mes bien chers frères. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est bien sûr Adam, le prophète Adam, le premier homme Adam, qui perd le paradis, Jérusalem, pour tomber en Jéricho, c'est-à-dire tomber dans la vie d'ici-bas, avec tous les péchés, tout ce que ça entraîne, toutes les conséquences du péché originel pour l'homme. Et il va rester sur le bord du chemin, à moitié mort, parce qu'il ne peut plus rien faire par lui-même, parce que Dieu a refermé la porte du paradis terrestre, a placé un ange, un chérubin, à la porte de ce paradis terrestre avec un glaive de lumière pour les empêcher de revenir. Et ils vont passer des années et des années, des centaines d'années à faire pénitence. Et donc, puisque nous sommes avec le bon Dieu, par l'état de grâce, malheur à nous si nous redescendons à notre vie passée. Malheur à la truie qui retourne à son vomi, dans l'écriture sainte. Je crois même que c'est dans l'épître de Saint-Pierre. Page 28. Malheur aux femmes enceintes et qui allaiteront ces jours-là. Donc cette phrase, dit le Père, fait allusion aux âmes faibles qui ont été amenées à la connaissance du Christ comme par du lait, mais qui sont trop lourdes pour voler et manquent d'expérience pour résister à l'Antéchrist, n'ayant pas échappé au péché ni participé à la nourriture du vrai pain de vie. Donc il faut, mes bien chers frères, savoir qu'un jour ces jours arriveront, ces jours de persécution arriveront, et nous serons aussi amenés à, je dirais, devant la folie du monde moderne qui va nous demander d'apostasier, comme ils ont cherché à faire, les Juifs ont cherché à faire apostasier les apôtres. Le sens mystique est très beau aussi donné par les pères. Dans la sainte place des Écritures, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'Antéchrist s'est souvent dressé. Que ceux qui voient cela s'enfuient de la Judée, de la lettre pour les hautes montagnes de la vérité, et que celui qui est monté sur le toit du monde, se tenant sur son sommet, n'en descende pas pour chercher quelque chose dans sa maison, que celui qui est au champ dans lequel le trésor est caché ne retourne pas dans sa maison de peur de se précipiter dans les tentations de la fausse parole. C'est le cas de celui qui a abandonné le vieux vêtement et le vieil homme pour y revenir plus tard. Donc, lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on a trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, il faut vraiment que ça corresponde à un changement de vie. Attention. Malheur à celui qui retourne à son vomi. Donc les catholiques qui ont retrouvé l'état de grâce après une bonne confession, une bonne communion, une bonne retraite, doivent faire très attention de ne pas revenir à sa vie passée, parce que son état sera pire. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur, que lorsqu'un démon quitte une âme, il va chercher 7 autres démons pires que lui, et si ces démons arrivent à rentrer de nouveau dans l'âme, la situation de cette âme sera pire qu'avant. Cette terrible destruction de Jérusalem, disent les pères, représente la fin du monde, comme le déluge sous Noé, la destruction de Sodome, l'anéantissement de Pharaon et de son armée dans les eaux de la mer morte. C'est aussi un symbole du petit nombre relatif des élus. Hein. Combien de personnes se sont sauvées de la destruction de Jérusalem, hein. Combien de personnes ont été sauvées à la fin du déluge, hein. Combien de personnes ont été sauvées de la destruction de Sodome, hein. Simplement Lot et ses deux filles. On voit très bien ça aussi par l'anéantissement du Pharaon. Toute l'armée de Pharaon a été détruite lorsque les eaux de la mer Rouge ont repris leur place habituelle. Alors, il y a une belle, page 28, une belle citation du pape Adrien Ier dans son épître au roi de France Charles. Voilà ce qu'il dit. Celui qui est sur le toit de sa maison représente l'homme qui laisse derrière lui les choses charnelles pour vivre selon l'esprit, dans une bonne atmosphère. Il laisse les meubles dans la maison car son esprit qui s'élève au-dessus de son corps par la compréhension des vraies valeurs est maintenant sur le toit où il jouit par la perspicacité de sa sagesse d'une pleine vue du ciel. Donc celui qui est sur le toit de sa maison représente donc l'homme en état de grâce qui doit faire très attention de ne pas retomber dans le péché, c'est-à-dire de redescendre à l'étage intérieur pour y récupérer quelque chose. Parce qu'on a coupé avec le monde, il faut vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à celui qui veut revenir en arrière. Il ne faut pas revenir en arrière. Note des pères de l'Église au milieu de la page 28. Lorsque les observances légales furent abrogées par le Christ le jour de la Pentecôte, elles devinrent mortes.
et à ce titre n'obéissent plus en conscience, mais ne deviennent pas immédiatement mortels, car il fut permis aux Juifs convertis au Christ de les suivre encore pendant quelques années, par respect envers Moïse et la loi, jusqu'à ce que les nouveaux convertis, étant mieux instruits dans la liberté évangélique, puissent passer à l'union parfaite avec les gentils dans l'Église du Christ. Attention, donc toutes les obligations liturgiques de l'Ancien Testament, toutes les purifications de l'Ancien Testament étaient utiles au temps des Juifs, mais actuellement, ces choses sont devenues mortifères. Ce serait une faute grave que de suivre les coutumes juives de purification de l'Ancien Testament, parce qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ a maintenant confié son peuple élu, a confié, si vous voulez, l'élection de son peuple élu à son représentant sur la terre, qui est le pape. Donc le nouveau peuple élu, c'est le peuple des catholiques. Il y a une note ici qui recoupe la note de Joseph que je vous ai lue, de l'historien Joseph, sur la destruction de Jérusalem. Ils disent que la multitude des Juifs qui s'était rassemblée pour la Pâque du monde entier, atteignait 2 700 000 personnes. C'est énorme. Ainsi, tous ces gens se retrouvèrent emprisonnés par le sort et la ville fut assiégée alors qu'elle était noire de monde. C'est ça qu'il y a eu tellement de morts. Rappelez-vous le texte de Joseph qui parle, je crois, 1 100 000 morts. Donc le prophète Daniel avait prophétisé cela en disant « La désolation continuera jusqu'à la consommation et la fin. » Donc cela veut dire que la ville de Jérusalem, après avoir été rasée jusqu'au sol et abandonnée dans la désolation par l'empereur Titus, ne sera plus jamais la ville capitale des Juifs, mais appartiendra alors aux gentils, puis aux chrétiens, avant que de l'être aux Sarrasins et aux Turcs. Et dans cet état de choses continuera jusqu'à la fin du monde, quand l'Antéchrist, roi et messie des Juifs, établira le trône de son empire à Jérusalem. Pour cela que Jérusalem, si vous voulez, dans les textes prophétiques, dans les textes de la Bible, symbolise dans ce cas-là ici la Jérusalem maligne, la Jérusalem du démon, la Jérusalem du monde. Dans d'autres textes, au contraire, la ville de Jérusalem représente le ciel, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est le ciel, la Jérusalem terrestre, c'est le pouvoir de l'enfer pour amener les gens en enfer le plus vite possible. Alors, Daniel a d'autres prophéties sur le sujet, quand il écrivit « La désolation continuera jusqu'à la consommation et la fin ». Cela veut dire que Jérusalem, après avoir été rasée jusqu'au sol et abandonnée dans la désolation par l'empereur Titus, ne sera plus jamais la ville capitale des Juifs, mais appartiendra alors aux gentils, puis aux chrétiens, avant que de l'être aux Sarrasins et aux Turcs. Et cet état de choses continuera jusqu'à la fin du monde, quand l'Antéchrist, roi et messie des Juifs, établira le rôle de son empire à Jérusalem. Donc Jérusalem a été la capitale du monde chrétien, enfin du monde plus exactement, du monde de l'Ancien Testament, qui vénérait l'unique vrai Dieu qui allait arriver. Et maintenant, malheureusement, cette cité est devenue la capitale des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Enoch et Élie résisteront à l'Antéchrist et convertiront au Christ de nombreux Juifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, nombreux Juifs? Personne ne sait exactement la signification de cette prophétie, mais un petit nombre ou un certain nombre de Juifs se convertiront à la fin du monde, ça c'est sûr. Dans quelles circonstances, on ne sait pas. Mais les pères de l'Église n'ont jamais parlé du conversion totale du peuple juif, non. Alors, continuons avec d'autres textes des pères de l'Église. Le Christ avait déclaré à Daniel, le prophète Daniel, que la désolation de Jérusalem et du Temple continuerait jusqu'à la fin du monde. Et c'était là une vraie vision, car le feu descendu du ciel, je vous en ai déjà parlé, le feu descendu du ciel et consuma tous les outils de ceux qui travaillaient au Temple à sa reconstruction. Un grand tremblement de terre détruisit les pierres de fondation et les dispersa, détruisant tous les bâtiments adjacents. Et la nuit suivante, l'empreinte du signe de la croix brillante comme les rayons du soleil apparut sur les vêtements des Juifs qui, malgré leurs efforts, ne purent l'effacer. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ parle des élus, verset 22. La cause des élus, ces jours seront abrégés. Et donc, les pères de l'Église, en bas de la page 28 sur le polycopier, font remarquer que les élus sont de deux sortes. Ceux qui sont les élus à la grâce, ceux qui sont les élus à la gloire. Les élus à la grâce, c'est les chrétiens qui ont eu un tas de grâce. Les élus à la gloire sont ceux qui vont au ciel, qui sont déjà sauvés, parce qu'ils étaient en état de grâce le jour de leur mort. Oh, la page 29. Pour que certains puissent survivre, qui par la prédestination divine seront sauvés, ceux-là même que Dieu a vu et ordonné par avance demeureront dans cette tribulation, seront convertis au Christ et seront sauvés. Dieu nous dit que pour cette raison, ces jours seront abrégés. Et l'historien Joseph affirme que plus de 40 000 juifs furent sauvés par Titus de la destruction de Jérusalem. Avançons dans ces commentaires. Page 23, page 29 sur le polycopier, versets 23 à 28. Alors, dit saint Matthieu, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voilà que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert, ne sortez pas, le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. » Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, et partout sera le corps, là s'assembleront les aigles. Notre Seigneur Jésus-Christ parle encore ici des faux Christ et des faux prophètes, donc des fausses prophéties. Attention, le démon travaille, mes bien chers frères. C'est pour cela qu'il faut simplement s'accrocher à ce que l'Église a toujours dit. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement venu prêcher, il n'est pas venu pour nous apprendre à jouer au golf. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour fonder une église. Il a fondé l'église catholique, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Alors, on dit que ce verset, le verset 28, chapitre 24 de saint Matthieu, est un des versets les plus difficiles à comprendre et à expliquer dans l'évangile. C'est possible. On voit très bien que les pères sont pas du tout unanimes dans leur explication, ne savent pas très bien comment expliquer ce verset. Je vous donne ici certaines des explications des pères. Donc la deuxième venue du Christ, à la fin des temps, n'aura pas lieu dans l'humilité comme la première fois, mais dans la gloire, car il y a la lumière du monde entier. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra sur les nuées du ciel avec les apôtres pour juger les vivants et les morts. Donc ces aigles qui se rassembleront à ce moment-là représentent la compagnie des anges, des martyrs et des saints. Si des rapaces sans raison, guidés par leur seul instinct, trouvent où repose le cadavre d'un animal mort malgré une grande distance, combien plus la grande multitude des croyants doit-elle se presser vers le Christ dont la lumière va d'est en ouest. Le cadavre dont il est question fait allusion ici à la passion de la mort du Christ. Donc, une première explication, c'est que ce corps dont parle le verset 28, ce corps, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui va rassembler autour de lui tous les anges, les martyrs et les saints. Donc les saints sont les aigles par le vol spirituel de leur corps et par le regroupement au lieu de la passion guidé par les anges. Donc nous devons l'attendre pour sa venue dans la gloire en ce lieu de souffrance, de ces humiliations qui nous gagneront la vie éternelle. Donc on voit bien comment notre Seigneur Jésus-Christ va rassembler tous ses élus autour de lui comme une poule rassemble ses poussins. Alors, qui sont ces faux Christ dont parle notre Seigneur, des faux Christ, des faux prophètes? Déjà en son temps il y en avait, alors pensez aujourd'hui, qui feront des grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parfois des choses très bizarres. On trouve dans certaines sectes américaines, ils font parfois des grandes séances de guérison, on trouve des espèces de guérisons qu'ils prétendent miraculeuses par des ennemis de l'Église, par des gens qui ne sont pas dans l'Église catholique. C'est impossible. Donc ces guérisons sont des guérisons démoniaques. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas tromper les gens en utilisant une fausse église. Notre Seigneur Jésus-Christ utilise l'unique église du Christ. Et il y a des tas de cas d'espèces de résurrection, de guérisons soi-disant miraculeuses opérées par ces ministres protestants. Mais ces guérisons ne durent pas dans le temps. Vous voyez ? Parce que justement, elles sont artificielles. Le démon est capable de faire des signes. Il n'est pas capable de faire des miracles, mais il peut faire des signes et tromper les gens simples. Les saints, donc, sont les aigles par le vol spirituel de leur corps et par leur regroupement au lieu de la passion guidée par les anges. Nous devons l'attendre pour sa venue dans la gloire et en ce lieu de souffrance, de ces humiliations qui nous gagnèrent la vie éternelle. Donc, encore une fois, on trouve la même idée, les saints, donc, qui représentent le corps mystique du Christ, se regroupent au lieu de la passion guidée par les anges. Autre explication des pères, page 29. Partout où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Voilà ce que disent certains pères. Moi, qui suis incarné sur le trône du ciel, aussitôt que j'aurai libéré les âmes des élus de la chair, je les exalterai dans les places célestes. Si donc quelqu'un vous dit qu'il s'attarde dans le désert des gentils, dans l'enseignement des philosophes ou dans les conventicules secrets des hérétiques qui promettent de faire découvrir les choses cachées sur Dieu, ne les croyez pas, mais croyez que la foi catholique brille d'est en ouest dans les églises. Donc ces chambres secrètes ou les déserts signifient les obscurs et secrets conventicules des hérétiques. C'est le verset 26. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, ne sortez pas. Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Et donc, attention à ces, encore une fois, à ces fausses apparitions qui peuvent faire d'énormes dommages dans les âmes. Je me rappelle quand j'étais à New York, aux États-Unis, on avait une fausse apparition. Il y avait une fausse apparition à Long Island, donc une partie de New York, au sud, légèrement au sud de l'endroit où j'habitais. J'habitais à l'époque dans le Connecticut. Et j'avais une maison de retraite là-bas, et il y avait une pseudo-voyante qui s'appelait Veronica Leuken à Bayside. Beaucoup de gens ont entendu parler de Bayside, qui a fait énormément de dégâts parce qu'elle prêchait, elle empêchait les gens de venir évidemment à la messe traditionnelle chez nous. Et elle disait aux gens, non, il faut rester dans vos paroisses pour donner le bon exemple et convertir les prêtres modernes par le bon exemple qu'on leur donne. On va voir ce que ça a donné. C'est pas les prêtres qui se sont convertis, c'est les prêtres de l'église de Vatican II qui ont converti les fidèles, qui ont commencé à mettre le bout des doigts dans la bouche du démon. Donc c'est pour faux Christ, ce sont donc les hérésiarques qui proclament un autre Christ en affirmant d'autres doctrines qui ne sont pas celles du Christ mais celles de l'Antéchrist. Donc méfions-nous de tous ceux qui enseignent une doctrine nouvelle. Et ces hérésiarques, ces gens qui enseignent une doctrine nouvelle, qui s'opposent à la doctrine traditionnelle de l'Église, peuvent faire des dégâts énormes. Regardez, dans les milieux de la tradition, même ces dévacantistes, les dégâts qui ont été provoqués par les finéistes, qui contre tout l'enseignement de l'Église, contre les pères de l'Église, contre saint Ambroise, contre saint Augustin, contre saint Thomas d'Aquin, contre le Concile de Trente, contre le catéchisme du Concile de Trente, contre le catéchisme de saint Pilice, enseigne qu'il n'y a pas de baptême de désir et pas de baptême de sang, et que tous ceux qui ne sont pas baptisés qu'un baptême d'eau sont en enfer. Que donc les millions de martyrs qui sont morts non baptisés, qui étaient encore des catéchumènes, sont en enfer, ou alors Dieu a envoyé un miracle, a fait un miracle à chaque fois pour envoyer un ange avec un verre d'eau pour les baptiser les uns après les autres. Alors que les pères de l'Église, alors que les saints disent, parlent tous du contraire. Et j'ai eu des finéistes en face de moi qui ont eu le culot de me dire, quand je leur rappelais que dans le catéchisme du Concile de Trente, qui est protégé par l'infaillibilité pontificale, c'est le magistère ordinaire de l'Église, et qui parle de l'existence d'un baptême de désir, il me sortait la bouche en cœur, le Concile de Trente s'est trompé. Donc qu'est-ce que vous faites de l'infaillibilité? Et la gravité, c'est que ces gens-là, qui s'écartent complètement de la tradition de l'Église, au lieu de quitter l'Église comme l'a fait Martin Luther, les protestants, ils restent dans l'Église et flanquent la pagaille dans l'Église, dans nos groupes, partout. Donc attention à ces faux Christs, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a avertis, il y aura des faux Christs et des faux prophètes. Donc le Christ parle de la destruction de Jérusalem, et cela vaut également pour toute période de temps, depuis la chute de Jérusalem jusqu'à la fin du monde. Le juge de tous les hommes apparaîtra comme l'éclair, brillant avec grande gloire et majesté, éblouissant tous les yeux en les attirant tous vers lui-même, de telle manière que personne ne pourra douter qu'il est bien le Christ, sauveur du monde. Donc d'autres explications qu'on trouve en... C'est les pères, donc en bas de la page 29. Après la métaphore de l'éclair, le Christ y joint la parabole de l'aigle. Comme l'aigle n'est pas touché par l'éclair, ainsi les élus ne seront pas affectés par le coup de semonce de la sentence du Christ, maudissant les mauvais pour l'enfer au jour du jugement. Donc ces aigles sont protégés parce qu'ils se rassemblent là où est le corps. Le corps, c'est le Christ. Page 31, en haut de la page. Les âmes des justes au jour du jugement, après la résurrection, se rassembleront, nous disent les pères, ensemble avec leur corps pour suivre le Christ ressuscité et glorifié et voler avec lui pour la vie céleste. Par les aigles est manifestée l'agilité des bienheureux. Selon les mots d'Isaïe, ils voleront comme des aigles. On retrouve les mêmes idées, vous voyez, les aigles sont aussi le symbole de la bienheureuse éternité des saints. Et certains pères vont même jusqu'à dire que l'aigle, c'est le symbole de la vérité. Donc soyons comme les aigles, rassemblons-nous autour du tabernacle, autour du lieu où notre Seigneur Jésus-Christ est. Non. Au lieu de croire ces fausses apparitions qui parlent par exemple très souvent actuellement de certains lieux qui seront protégés, comme les apparitions qui prétendent qu'il faut aller à certains coins de Bretagne parce que toute la terre sera détruite sauf la Bretagne. C'est pas l'enseignement de l'Église. Où est-ce qu'il faut se rassembler? Il faut se rassembler comme les aigles autour du corps, et ce corps, c'est le corps du Christ qui est présent dans le tabernacle de l'Église catholique. Voilà, nous avons terminé pour ce cours. Je ne vais pas dépasser trop une heure. Donc, le prochain cours, dans une semaine, si Dieu veut. Donc, relisez, encore une fois, ceux qui s'accrochent à ce cours, relisez le texte, le polycopié qui a été expliqué aujourd'hui, vous arriviez à suivre. Ce ne sont pas forcément des textes faciles, les textes des pères de l'Église. C'est pour ça que, malheureusement, beaucoup de gens n'étudient pas les pères. C'est bien dommage, parce que les pères de l'Église donnent une illumination extraordinaire au texte de l'Évangile. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.